La chose commune sur Studio ZEF, l'émission d'actualité environnementale, avec cette semaine un sujet émergent dans les médias locaux et nationaux. Du Berry Républicain à la Nouvelle République, France 3 Nationale en passant par RTL, France Info, TV Tour ou Le Monde, l'engrillagement de la Sologne. Pourtant, le phénomène n'est pas nouveau, puisque dès 1991, les premiers pouvoirs publics locaux s'inquiétaient de la mise en place de clôtures hautes autour des grandes propriétés soloniotes. Mais depuis 10 ans, l'engrillagement connaît une accélération fulgurante. Depuis une étude de 2011 qui démontrait à minima 670 km de clôture, nous sommes passés en 2019 à un chiffre supérieur à 4000 km, qui est une estimation basse. Pourquoi cette explosion? Quelle raison à cela? Et quelles conséquences pour l'environnement solonio? Pour en parler, je reçois Sébastien Camus de l'association Chasseurs Promeneurs et Faune Libre en Sologne. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que les chiffres que je viens de citer en quelques très rapidement, là, est-ce qu'ils vous semblent exacts?
Alors, pour être plus précis, on est bien plus près des 5000 km. Et il faut absolument savoir que ces chiffres sont relevés uniquement de la voie publique, c'est-à-dire voirie routière et chemins ruraux. Donc tout ce qui est entre propriétés, sur parcelles privées, n'est pas comptabilisé.
D'accord. Donc ça veut dire qu'on a quelquefois deux propriétés qui se jouxtent et qui ont chacune leur propre clôture?
Tout à fait.
Très bien. Et est-ce qu'il y aurait éventuellement un autre chiffre, une autre donnée que vous pourriez donner qui permette aussi de présenter le problème, à part
Non, si ce n'est que ces propriétaires qui souhaitent se clore à toute fin de chasse et uniquement à toute fin de chasse ne sont qu'une douzaine, voire grand maximum une quinzaine.
D'accord.
Mais ils pourrissent la vie de 500 000 hectares de forêt qui, entre nous, est classée quand même la plus grande zone Natura 2000 d'Europe.
Très bien. Donc vous venez au nom de l'ACPFLS,
oui, tout à fait.
Voilà, excusez-moi, l'acronyme est un petit peu piégeux. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association?
Alors, cette association représente des chasseurs, des promeneurs, des randonneurs, des non-chasseurs. En fait, tout est parti de la communauté qui vit en Sologne, ou qui y passe, tout simplement, pour défendre cette magnifique trame qu'est la Sologne en France, et donc en zone Natura 2000, comme je vous le disais précédemment. Et l'engrillagement est insupportable parce que la faune sauvage qui y vit est légalement res nullius, c'est-à-dire n'appartient à personne. Et le fait d'engrillager ces animaux-là peut provoquer, ou peut apporter en tout cas des maladies. On a le cas de la peste porcine qui est aux frontières de la France, donc sur la Belgique, maintenant sur l'Allemagne, et plus loin également en Pologne. Mais ça peut aussi apporter des zoonoses si les animaux se reproduisent trop entre eux-mêmes, et plein d'autres choses comme ça. Donc c'est très malsain. La deuxième chose, c'est en s'enfermant comme ça, sur certaines propriétés, vous avez des chemins ruraux qui traversent ces forêts. Et certains propriétaires n'hésitent pas à s'approprier ces chemins ruraux.
Donc à s'approprier de l'espace public.
Exactement. Très bien. Pour certains, sous couvert du maire local.
Vous parliez du mot, vous avez utilisé le mot zoonose pour expliquer à nos auditeurs, c'est des maladies qui sont des maladies animales qui sont potentiellement transmissibles à l'homme.
Pour certaines, pas pour toutes.
Pour certaines, très bien. Alors, on a compris un petit peu ce que c'était que l'engrillagement. Vous parliez d'une douzaine, quinzaine de propriétaires. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus? Qui sont ces propriétaires-là? Parce qu'on imagine 4000, 5000 kilomètres. En surface clôturée, ça représente quel espace?
Alors, certains se représentent, comme l'a très récemment fait M. Tranchant, comme des grands capitaines d'industrie. Il a lui-même targué dans la Nouvelle République, d'ailleurs récemment, que sans lui et ses collègues, la Sologne ne serait rien. Je suis désolé de contredire M. Tranchant, mais la Sologne, si, elle a ses soloniaux, elle a ses habitants. Et si on prend l'exemple de M. Tranchant, il aurait, a priori, d'après ce qu'il dit, 1300 hectares de fermés. Moi, quand je fais le tour de ces clôtures, c'est pas 1300, c'est bien plus.
D'accord. M. Tranchant, qui est donc d'une famille de propriétaires de casinos, c'est ça?
C'est ça, exactement. Et de Baltrape.
Et de Baltrape, d'accord. Alors, on voit un petit peu, ce sont des gens qui ont un pouvoir financier important, des relations importantes.
Oui.
Donc ça veut dire que quelque part, ils bénéficient aussi d'alliés au niveau local?
Au local et national, bien sûr. Il y a un lobbying de la chasse qui est très important au niveau politique, malheureusement.
D'accord. Et pourtant, j'ai le sentiment que les chasseurs sont un peu partagés sur cette question-là quand même.
Oui, bah une certaine catégorie de chasseurs, la plus grande partie, bien heureusement pour nous, qui prône une chasse éthique et propre, se soulève contre ces engrillagements qui sont excessifs.
Et pourtant, vous dites que le lobby de la chasse les soutient. J'ai le sentiment qu'il y a une espèce d'incohérence, mais en tout cas de paradoxe, quelque part, dans ça.
Parce que chez certains de ce que moi j'appelle les engrillageurs, chez certains de ces engrillageurs, certains hommes politiques d'influence nationale vont y chasser également.
D'accord. Vous, à titre personnel, vous avez une expérience aussi de l'engrillagement, en tant que, quelque part, victime de cet engrillagement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé donc, vous êtes d'Ivoile Marron, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. Oui. Donc, de par mon métier, de par ma profession, je suis régisseur et garde particulier. Donc, je gère un petit territoire qui n'a d'aucune commune mesure l'importance de ces gens-là. Et je me suis retrouvé avec mon employeur... par grande surprise, renfermé par les grillages sur trois faces par le nouveau voisin.
D'accord.
Donc la seule face restant ouverte étant celle de la route.
D'accord. Et quelles conséquences ça a pour le territoire que vous gérez, même pour plus large échelle, pour la zone de vie, on va dire, autour de cette propriété ?
Alors, nous-mêmes étant chasseurs éthiques, nous n'avons quasiment plus de gibier sur le territoire, puisque les grillages empêchent quasiment toute circulation, sauf pour les cervidés qui arrivent à sauter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de voir que, fort heureusement, sur notre territoire à nous, la flore est encore présente. Par contre, dès qu'on pose l'œil de l'autre côté du grillage, ce n'est plus que de la terre, plus rien ne pousse.
D'accord. Comment on l'explique ça justement que on s'en doute, c'est-à-dire que je suppose qu'il y a une concentration de...
Surconcentration bien sûr.
Ouais.
La loi dit qu'on doit avoir en cas de parc de chasse un ongulé à l'hectare, c'est-à-dire un animal à l'hectare. Quand on voit dans les taxés où la plus rien ne pousse, il y a évidemment plus d'un animal à l'hectare. Donc si on n'a plus d'un animal à l'hectare, on n'est plus en parc de chasse, on est en parc d'élevage. Et en parc d'élevage, la chasse y est interdite. Malheureusement, l'OFB ne contrôle rien. Il n'a pas les moyens de le faire, d'ailleurs.
Oui, c'est surtout ça, un problème de moyens, parce que du coup, l'OFB existe, elle a peu de personnel et elle a surtout peu de moyens pour aller voir à l'intérieur des propriétés.
L'ONCFS, anciennement OFB, en avait déjà pas beaucoup, mais depuis qu'ils sont passés sous l'égide de l'OFB, ils en ont encore moins.
Donc l'Office français de la biodiversité, hein, pour les auditeurs. D'accord. Alors, quels sont les arguments des propriétaires pour poser ces clôtures ? Parce que d'emblée, comme ça, on se dit qu'ils jouent contre eux-mêmes, quelque part, à s'enfermer.
Bien sûr.
Mais pourtant, quelque part, ils ont des arguments pour justifier la pose de ces clôtures hautes. Sachant qu'on ne les a pas présentées, mais c'est des clôtures qui font souvent 2 mètres de haut.
Alors, attention, parc de chasse, c'est 1 mètre, 1 mètre 40 de haut.
D'accord.
Grillage enterré. Et enclos de chasse, c'est plus de 2 mètres et au-delà de haut.
D'accord.
Et grillage enterré également, avec grillage à petite maille en bas, pour empêcher toute la petite faune également de traverser. Donc tout gibier à plumes et à poils.
D'accord. Alors du coup, voilà, on sent bien que là, il y a un enfermement complet.
C'est ça.
Quels sont les arguments pour les propriétaires de poser ce type d'équipement ?
Leur premier argument, c'est de parler de constitution, puisque le droit de se clore est constitutionnel, il est légiféré. Leur deuxième argument, c'est de dire qu'ils ne veulent pas voir de promeneurs ou de cueilleurs de champignons ou je ne sais quoi encore sur leur territoire. C'est principalement ces choses-là.
D'accord. Donc en fait, le premier argument, c'est qu'ils le font parce qu'ils en ont le droit.
Bien sûr.
Ok. Bon, enfin voilà, à titre personnel, je trouve que c'est un petit peu léger comme argument.
C'est très léger, surtout qu'on peut contredire ces choses-là.
Oui.
De par le fait que la faune est res nullius. Déjà d'une part, de par le fait qu'on est en zone Natura 2000, la plus grande d'Europe, de par le fait que la loi Grenelle 2014 dit qu'en Sologne, il y a des zones de biodiversité à préserver, des trames vertes et bleues. Ça, personne ne le prend en compte, personne ne le défend.
Et le deuxième argument qui est de dire, pour empêcher l'intrusion de promeneurs sur leur propriété, est-ce qu'on est obligé de mettre des clôtures aussi hautes et aussi strictes ? En sachant qu'en plus, est-ce qu'on est obligé d'enterrer les clôtures ? Les gens ne vont pas creuser ou en tout cas ramper pour rentrer sur les terrains.
Évidemment. Il y a, alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le petit panneautage. Vous pouvez évidemment poser une clôture de 3 ou 4 fils lisses, par exemple, ou des choses comme ça.
Après, il y a toujours des gens qui vont... On n'est pas à l'abri d'une intrusion malveillante. Mais la plupart des gens qui se promènent en forêt vont dans des terrains, vont en forêt, ne savent pas que c'est interdit. Et quelque part, ils dépassent une limite qu'ils ne savent pas que c'en est une.
Et oui, alors effectivement, c'est là qu'il faut aussi, entre guillemets, former le promeneur lambda. La forêt n'appartient pas à tout le monde. La forêt, c'est 87% de la forêt française est privée. Les seules forêts où les gens peuvent se promener librement, et encore, c'est en forêt domaniale. C'est, il faut bien le savoir.
Très bien. On a commencé à l'aborder, mais on va creuser un petit peu le sujet, parce que c'est vraiment le cœur de cette émission, c'est vraiment la question environnementale. Vous avez parlé justement de biodiversité. Sur ces propriétés clôturées, vous dites que plus rien ne pousse. Du coup, quelles conséquences ça a pour les animaux? Par exemple, je suppose que les sangliers et les cervidés qui sont sur ces propriétés, ils ont quand même besoin de manger.
Bien
Comment
sûr.
Est-ce qu'ils se nourrissent?
Et ben, ils sont nourris par l'homme lui-même, tout simplement. C'est ce qu'on appelle du nourrissage. Alors, le nourrissage était accordé, ou en tout cas toléré par les fédérations de chasse pour les éloigner des cultures, pour pas qu'il y ait de dégâts dans les cultures. Ça, c'était l'origine du nourrissage. Aujourd'hui, le nourrissage est fait justement pour nourrir en grande concentration les animaux sur un même territoire.
D'accord. Sans ça, ils n'auraient pas les ressources nécessaires pour survivre, quelque part.
Exactement.
Et puis, ça a peut-être aussi un intérêt, puisque ça permet de concentrer les animaux à certains points de nourrissage pour pouvoir leur tirer dessus plus facilement aussi. Et
tout à fait.
D'accord. Et donc, du coup, plus rien ne pousse sur ces terrains-là. La biodiversité, la flore est dévastée.
Ah oui, complètement. Il faudra plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années sans présence de ces mammifères sur le territoire pour que la flore puisse reprendre vie.
D'accord. Alors, en préparant l'émission, moi j'ai vu que du coup l'objectif aussi, l'intérêt de concentrer autant d'animaux sur un territoire comme ça, c'est aussi de pouvoir faire des tableaux de chasse impressionnants où on va pouvoir abattre une certaine quantité d'animaux, je sais pas, 50, 100 ou plus de 200.
Oui.
Du coup, c'est aussi problématique quelque part.
Alors, il y a, je dirais, deux écoles qui ne sont pas incompatibles l'une et l'autre. La première, elle est commerciale, c'est de faire de l'argent, tout simplement, parce que d'une part, quand on achète un grand territoire, on défiscalise sur les hectares de bois que l'on revend. On revend des actions de chasse, on revend le gibier abattu, par exemple à Rungis. Donc ces gens-là gagnent sur tous les tableaux, sachant qu'ils sont, comme ils le disent eux-mêmes, déjà des grands capitaines d'industrie. Et le deuxième point, c'est que c'est un petit peu aussi une cour d'école, où c'est des petits garçons entre eux qui jouent au concours de, excusez-moi l'expression, mais c'est moi qui aura la plus grande.
D'accord. Avec en plus la possibilité d'inviter des gens et de faire des affaires sur place aussi, je suppose.
Oh, bien sûr. Monsieur Dassault s'en est déjà jamais caché.
D'accord. Oui, Monsieur Dassault qui possède des terrains du côté de Salbris.
Saint-Gatre.
D'accord. À une époque, il se vantait de... Enfin, il y a eu un conflit quelque part avec la mairie de Salbris il y a quelques années. Est-ce que lui aussi, on sait si ses terrains sont clôturés, grillagés?
Oui, je peux le confirmer. Je l'ai moi-même constaté.
D'accord. Donc en fait, il a quelque part, il a suivi la mode.
Ah, bien sûr.
Très bien. Vous parliez un peu plus tôt de risques liés à la peste porcine qu'on voit en Belgique et en Allemagne. Comment cette maladie pourrait arriver en plein milieu de la Sologne?
Tout bêtement parce que certains de ces propriétaires en grillageurs font importer des animaux, notamment de Pologne, là où il y a le plus grand foyer de fièvre porcine africaine, alors que l'importation est interdite.
Et pourquoi ils importent des animaux?
Pour en avoir plus à faire. Bien sûr. Sur un territoire, même sur un territoire de 500 hectares, quand vous faites, comme ça s'est passé encore ce week-end, pas loin de 180 sangliers de massacrés, c'est pas possible autrement.
Oui, les populations ne peuvent pas se reproduire par elles-mêmes.
Si, c'est ce que j'allais vous dire. Même avec une bonne gestion, il n'est pas possible d'en faire autant.
Ok. Alors, pareil, toujours en préparant l'émission, j'ai entendu plusieurs acteurs impliqués dans cette cause-là. Dire que maintenant, ouvertement, que la Sologne était morte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Elle est en train de le devenir, oui. C'est Nicolas Vanier qui a lancé ce sujet-là. Et oui, je suis pleinement d'accord avec lui, oui, malheureusement.
D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quelque part, on a un volume globale de forêt qui est engrillagée, qui, sur lesquelles on sent bien qu'en effet la vie est quelque part, elle est sous perfusion humaine. Mais est-ce que ça concerne tant de places, de surface pour que justement le reste de la Sologne soit impacté?
Oui, parce que c'est même si c'est qu'un petit point à tel endroit ou à tel autre, ça impacte vraiment quasiment la totalité du territoire solognaux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, même si on arrive par miracle à faire démonter ces clôtures dans les quelques mois qui viennent, bon, faut pas trop rêver, mais il faudra des dizaines d'années pour que la flore reprenne surface.
D'accord. Est-ce que quelque part, le fait d'avoir des clôtures comme ça disséminées partout, ça empêche aussi une circulation à plus large échelle des animaux sur l'ensemble de la forêt, c'est ça?
Évidemment. Évidemment. D'où les maladies dont je vous citais tout à l'heure.
Ok. Alors, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu plus sur les réponses à apporter à ce problème, s'il y en a.
Oui, il y en a.
À plusieurs titres, moi j'ai le sentiment qu'en tout cas, les trois grandes actions qui sont éventuellement valides ou qui sont à mon avis porteuses, c'est tout d'abord la couverture médiatique. En introduction, je disais que c'est un sujet qui émerge dans les médias nationaux.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, actuellement, de la couverture médiatique qui est faite de ce sujet au niveau local et au niveau national? Alors, peut-être d'abord au niveau local, puisque souvent, les journaux locaux ont, à mon sens, ils ont du mal à se positionner très...
Non. Il y a depuis longtemps une couverture locale des médias, mais il n'y a jamais eu de suivi derrière. Donc là, maintenant que ce dossier prend une importance nationale, et que les médias nationaux, et ô combien, tant mieux, en parlent maintenant aujourd'hui, bah, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut aller encore plus loin.
Et vous avez le sentiment qu'il y a une évolution de la couverture médiatique au niveau local de cette question-là?
Oui, et tant mieux, parce que même certains solognaux, sans parler de pratiques de chasse ou de randonnée, de tout ce que vous voulez, certains solognaux ne se sentent absolument pas concernés par ce phénomène.
D'accord. Alors que pourtant, ils vivent à côté de certaines de ces grandes propriétés.
Exactement.
Il y a même, un certain nombre de personnes qui travaillent dans ces propriétés.
Certains noms, c'est un grand mot.
Oui.
Moi, je dirais plutôt l'inverse. Et je dirais que ce qui est dangereux, c'est que quand ces gens-là rachètent à tour de bras des hectares et des hectares, bon, ils ont la fortune pour le faire, grand bien leur fasse, mais qu'ils renferment derrière et surtout qu'ils rachètent donc, avec les terres des bâtiments qui ne sont plus habités. Donc ça fait des familles en moins dans les villages, ça fait des enfants en moins dans les écoles, et ça fait des consommateurs en moins dans les petits commerces des villages en question. Donc c'est aussi ce que moi j'appelle une désertification locale.
Au niveau de la couverture médiatique au niveau national, est-ce que vous trouvez ça intéressant et comment vous l'analysez, comment vous la regardez?
Je l'analyse en vous répondant enfin, ça y est. Les médias nationaux s'intéressent à ce problème, qui est un gros problème, même si certains médias, comme par exemple, on peut citer Le Figaro ou TF1, se refusent à tout reportage ou commentaire sur le sujet.
Et on comprend pourquoi. On peut l'expliquer peut-être, parce que ça paraît évident pour vous, pour moi aussi, qui suis un petit peu la question médiatique, mais ce qu'on peut quand même expliquer, c'est que Martin Bouygues, qui est propriétaire de TF1, possède une propriété de chasse.
C'est ça.
Est-ce qu'on peut dire où ça?
En Sologne.
En Sologne, voilà. De la même façon, bon, on a déjà parlé de M. Dassault, qui est propriétaire du Figaro, et qui possède lui aussi une propriété de chasse.
Voilà.
Et donc, quelque part, ils empêchent, ou en tout cas, ils limitent la couverture médiatique dans leurs propres médias. Quelque part, on va dire que c'est aussi pour ça qu'ils possèdent des médias, quelque part.
Ben oui, c'est de l'autoprotection.
Voilà, ils se protègent de sujets dont ils peuvent être éventuellement victimes. Très bien. Alors, ça, c'est le premier, la couverture médiatique. On sent qu'il y a quelque chose qui évolue, qui bouge, il y a un sujet qui monte. Qui s'accompagne aussi peut-être, qui est lié aussi au fait qu'il y ait une actualité législative, puisqu'on a deux textes de loi qui sont actuellement, alors je ne sais pas où ils en sont exactement dans le parcours législatif, en tout cas ils ont été déposés, donc ils vont bientôt arriver à l'agenda de la discussion.
Oui, bon après ces textes de loi pourront toujours être retoqués, même s'ils sont déjà votés, surtout pour l'un en question d'ailleurs. Là, je fais référence à la proposition de loi de Guillaume Pelletier, député du Loir-et-Cher, qui Ah, tout n'est pas mauvais dans son texte, à mon sens. Mais quand il propose qu'il laisse à la charge des préfets de savoir s'il faut ou non autoriser les clôtures en bord de route pour la sécurité routière, c'est une hérésie.
Oui. On peut peut-être du coup redonner des informations sur ce texte loi en particulier, qui est le dernier sorti. Donc Guillaume Pelletier, donc député du Loir-et-Cher, propose dans son texte principalement deux choses. D'interdire la construction de toute nouvelle clôture continue et constante. Donc c'est-à-dire qu'on maintient un statu quo de ce qui a déjà été fait, mais on interdit toute nouvelle clôture. Et il propose aussi la création d'un délit d'introduction sur terrain d'autrui, même sans causer de dommages. Délit qui serait sanctionné de 2 ans de prison et de 75 000 euros d'amende.
Oui, alors ça c'est complètement excessif. On peut très bien être promeneur, sans vouloir en abuser, être non connaisseur du territoire sur lequel on se promène, parce qu'on peut très bien partir d'un chemin rural qui traverse une propriété, et puis sur ce chemin rural peuvent dévier d'autres chemins qui sont privés, et le promeneur peut très bien les emprunter sans en avoir conscience. Donc c'est un petit peu ridicule d'avoir des sanctions aussi lourdes. Dans ce cas-là, quitte au propriétaire, plutôt que de poser des kilomètres de grillage à 30 000 euros du kilomètre, il faut le savoir quand même, et bien tout simplement d'embaucher des gardes.
Oui, ce qui reviendrait au même.
Ce qu'il y avait auparavant,
oui,
avant les grillages.
Et ce qui fait vivre le territoire de la Sologne, du
exactement.
Coup.
Exactement.
Du coup, sur ce texte-là de Guillaume Pelletier, vous citiez aussi le pouvoir qui est donné au préfet. Vous pouvez le rappeler, parce que du coup, je pense que c'est important qu'on le rappelle aussi dans ce texte.
Le député Guillaume Pelletier propose dans son texte de loi de laisser la libre décision au préfet de laisser ou non les grillages se construire en long des routes sous prétexte de la sécurité routière.
D'accord.
Donc ça et ne rien faire aujourd'hui,
oui,
c'est la même chose.
C'est la même chose, d'accord. Puisqu'on a vu en effet des images où on voyait, des sangliers qui étaient en bord de route, qui étaient empêchés de rentrer dans la forêt.
Exactement.
Et qui se cognaient contre un grillage qu'ils ne pouvaient pas franchir et qui du coup, causaient un risque pour les...
Ah le risque est doublé pour la sécurité routière, là, par contre, dans ce sens-là,
oui.
Bien sûr.
D'accord. Ok, je comprends. Du coup, oui, c'était plutôt dans l'autre sens, en fait.
Il y a une chose qui est simple pour comprendre le phénomène. C'est pas la forêt qui traverse la route, c'est la route qui traverse la forêt, tout simplement.
D'accord. Il y a aussi donc un deuxième texte de loi qui là a été qui est un peu plus ancien et qui reçoit le soutien de beaucoup de gens dans la cause, en tout cas sur cette question-là. C'est le texte de Monsieur François Cormier-Bouligeon, qui est député du Cher, qui lui propose d'interdire la chasse en enclos. Sauf exception, mais ça, vous allez nous expliquer, et d'interdire de nourrir les animaux avec des graines et du fourrage dans les enclos. Comment vous jugez ce texte-là ? Pour vous, est-ce qu'il vous satisfait plus ?
Alors, chez le député Cormier-Bouligeon, que je vais rencontrer le mois prochain, deux choses me gênent. C'est le terme enclos, parce que là, dans ce cas-là, on parle d'un texte de loi avec des mots. Les mots sont très importants. Donc le terme enclos représente ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais n'inclut pas les parcs de chasse. Ça, c'est le premier problème.
D'accord.
Le deuxième problème, c'est que dans son texte de loi, dans sa proposition de loi, il laisse exception aux chasses commerciales. Donc on en revient au même, avec le texte de loi de Guillaume Pelletier, ça et rien, c'est pareil.
Parce que du coup, les propriétaires qui...
Les trois quarts sont déjà en société de chasse commerciale.
D'accord. C'est-à-dire qu'oui, ils ont une activité commerciale, ils sont propriétaires du terrain et ils l'exploitent comme une société de chasse.
Exactement.
D'accord. Oui, ce qui fait que du coup, il n'y aurait pas d'interdiction de nourrir ou d'interdire la chasse sur ces parcelles-là, en fait.
Exactement. Après, nourrir les animaux dans un territoire qui est clos, grand bien leur fasse si ça leur fait plaisir, à condition que la chasse y soit interdite.
Oui. Donc on sent bien que les deux propositions de loi, elles vous satisfont pas complètement. Est-ce que dans le milieu militant contre l'engrillagement en Sologne, est-ce que vous êtes à peu près d'accord ? Est-ce que vous avez défini des priorités ou des choses qui pourraient être dans la loi ?
Tout à fait. Déjà pour en revenir sur ces deux projets de loi, ces deux projets sont pour moi directement ou indirectement électoralistes. Ça, c'est le premier point. Maintenant, effectivement, on a la Belgique à côté de chez nous qui a eu une évolution de leur loi concernant la chasse, où en Belgique, et plus précisément en Wallonie, si vous clôturez votre territoire, vous ne pouvez plus chasser. Si vous voulez chasser, il faut démonter les clôtures. Mais c'est tout simplement ce qu'il faut faire en France. Et pour cela, on a plusieurs leviers. Donc il y a le levier d'interdiction de chasse, sur lequel on peut réellement jouer, parce que là, il n'y a pas de constitution là-dessus. Et il y a aussi, et surtout, le levier fiscal. Parce que pour ces gens-là, ce qui fait mal, c'est l'argent.
Donc, vous auriez un exemple de proposition qu'on pourrait faire, justement, pour...
Oh, il y en a plein. Fiscaliser le linéaire de clôture, empêcher ces gens-là d'avoir accès à la défiscalisation de bois, sur la voie Monichon, par exemple. Ne pas fiscaliser leur territoire foncier, mais comme il est clôturé, plutôt le fiscaliser en territoire bâti.
D'accord.
Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. Oui, il faut juste avoir envie de le faire.
Qui permettrait de taper très très sévèrement au portefeuille.
Exactement.
Et qui serait du coup incitatif aux gens à faire tomber les clôtures.
Exactement.
Très bien. Et ça, pourquoi, à votre avis, ce n'est pas des propositions qui sont actuellement étudiées ou en tout cas envisagées?
Parce qu'il y a un lobbying, connivence, le mot est peut-être un peu fort, mais un rapprochement chasse politique qui est trop présent.
Il y a une proximité entre les pouvoirs publics nationaux et les propriétaires de ces propriétés, en fait.
Tout à fait.
D'accord. Alors, tac. Oui, moi j'avais une question aussi, je m'interroge aussi, c'est-à-dire que historiquement, la Sologne, c'est un territoire de chasse, mais pas que, c'est aussi un territoire agricole, où il y avait énormément d'autres activités que celles de la chasse. Et j'ai le sentiment qu'en fait, ce phénomène-là aussi, il est lié à cette transformation du territoire vers quelque chose qui est extrêmement, quasiment exclusivement tourné vers la chasse. Est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter ça aussi il y a 40, 50 ans en quelque part en préservant, en tout cas en essayant de préserver des activités autres que celles des activités de chasse en Sologne?
Mais aujourd'hui, la chasse en Sologne ne représente que 20% de l'activité économique.
D'accord.
Donc la chasse n'est pas que ce qui fait vivre la Sologne. La Sologne a plein d'autres ressources, hein, et notamment industrie.
D'accord. Ok. Eh bien, très bien. On arrive à peu près au terme de l'émission. Est-ce que vous auriez éventuellement d'autres choses à ajouter? Peut-être éventuellement, comment les actions de terrain des... Moi, c'est la question que je peux vous poser. Comment les actions de terrain des associations? Vous n'êtes pas la seule, il y en a d'autres.
Oui.
On peut peut-être les citer, les associations qui vous accompagnent dans ce combat.
Donc, il y a donc la CPFLS, qui est l'association Chasseurs-Promeneurs et Faune Libre en Sologne, donc pour laquelle je suis président. Vous avez aussi l'association Les Amis des Chemins de Sologne, et vous avez une troisième association qui s'appelle La Casque. Donc ces trois associations se battent de manière différente, mais dans le même sens, et avec l'appui de Nicolas Vanier et du président de région François Bonneau, pour essayer d'arriver à nos fins.
D'accord. Et donc du coup, comment, à votre sens, les actions de terrain que vous menez, c'est-à-dire la sensibilisation, l'information au public, elles peuvent porter leurs fruits?
Alors actuellement, comme vous le savez, depuis un peu plus d'un an, avec le Covid, c'est très compliqué. Mais bon, les trois associations ont compris que les médias étaient une passe d'arme importante pour arriver à ces fins-là. Et plus personnellement, pour la CPFLS, nous faisions beaucoup de salons. Donc nous allions au-devant des gens sur les salons et les expositions. Malheureusement, en ce moment, c'est un peu plus compliqué.
D'accord. Et donc, du coup, comment vous arrivez à médiatiser la cause en ce moment?
Alors, avant, c'est nous qui allions vers les médias. Aujourd'hui, je trouve que ce sont les médias qui viennent vers nous.
Oui, puisque du coup, vous avez répondu à mon invitation aujourd'hui.
Voilà.
Je vous en remercie. Très bien. Eh ben, je vous remercie encore une fois d'être venu jusqu'à la radio pour présenter ce sujet. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, puisque l'actualité faisant, le sujet va continuer à être dans le débat public. À l'occasion, si vous souhaitez revenir éventuellement présenter des nouvelles actions, vous serez le bienvenu dans cette émission.
Ce sera avec grand plaisir, et merci encore à vous pour présenter à tous vos éditeurs ce gros problème qu'est l'engrillagement en Sologne.
Oui, d'autant plus que j'ai le sentiment que nous qui sommes blésois, qui sommes à côté de la Sologne, on n'est pas forcément très au fait de ce qui est voisin en fait.
C'est ça. Hein? Je pense que malheureusement, beaucoup de blésois, comme d'autres d'ailleurs, hein, que ça peut être Vendômois ou ailleurs, se sentent complètement désintéressés de ce problème.
Très bien. Eh bien, on tâchera de le faire vite dans cette émission. Donc voilà, la chose commune, c'est fini pour cette semaine. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de la radio studiozef.fr. Et d'ici là, moi je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et on continue d'agir pour la chose commune.